Famille de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1942 dans une petite ville d'Autriche, Peter Handke abandonna ses études de droit pour se consacrer à l'écriture après que son premier texte, « Les frelons », fut publié en 1966, année qui fut aussi celle de la création de sa pièce « Outrage au public », qui provoqua le scandale et marqua son entrée dans l'univers du théâtre. Il est l'auteur d'une quarantaine de romans et de 15 pièces de théâtre, dont « La chevauchée sur le lac de Constance », « Les gens déraisonnables sont en voie de disparition » ou encore « Par les villages », pièce créée au Festival de Salzbourg dans une mise en scène de Wim Wenders en 1982 et en France par Claude Régis l'année suivante. Sous-titrée « Poème dramatique », elle raconte l'histoire d'un écrivain qui revient dans son village natal lorsque son frère, ouvrier du bâtiment, et sa sœur, vendeuse dans un magasin, lui demandent de renoncer à sa part d'héritage. En 2013, alors que la pièce était montée au Festival d'Avignon dans une mise en scène de Stanislas Nordet, c'est par son évocation que s'ouvrait le dialogue de l'écrivain avec Virginie Bloch-Lenné, dans une conversation enregistrée pour l'émission À voix nue et diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 juillet 2013.
À voix nue. Toute cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Peter Handke. Ce soir, l'Autriche.
Bonsoir Peter Handke. Vous êtes autrichien et installé en France depuis plus de 20 ans. Vous vivez dans une maison à Chaville, dans les Hauts-de-Seine, où nous sommes ce soir. Vous êtes né en 1942, en Carinthie, au sud de l'Autriche, dans un milieu de petits paysans. Votre famille maternelle était d'origine slovène, et enfin vous avez appris à parler le slovène, que parlait aussi votre mère. C'est à Berlin que vous avez vécu la guerre, dans une partie de la ville qui deviendra Berlin-Est. Puis avec votre mère, vous retournez en Autriche en 1948. J'aimerais, Peter Handke, commencer ces entretiens par l'Autriche, puisque vous oscillez entre la tendresse et l'amour pour l'Autriche, mais aussi pour l'Allemagne. Et dans « Par les villages », la pièce de théâtre qui est mise en scène cette année à Avignon, un des personnages qui s'appelle la vieille femme, dit à Grégor, qui est de retour dans sa maison d'enfance, « Tu es dans un pays aussi petit que méchant ». Quel commentaire vous pouvez faire sur ces deux adjectifs que vous avez écrits en 1981 ?
Ça fait partie d'une diatribe de cette vieille femme qui est déçue par qui aime son pays et qui est en même temps déçue. C'est dramatique, c'est une phrase dramatique qu'on peut prononcer dans une pièce, mais pas tellement dans un roman, par exemple. C'est parlé. Alors, c'est dit pour être contredit, je crois.
Et comment vous pourriez contredire ? Qu'est-ce que vous pourriez...
Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peste contre votre pays. Il y a toujours quelque chose à raconter contre la tempête qu'il déclenche. Ça. C'est ça le drame, non ? Par les villages, c'est entre les deux. La beauté, l'amour d'un pays et aussi la déception pas seulement la déception, aussi l'horreur de l'histoire. C'est la géologie ou la géographie contre l'histoire, soi-disant, en Autriche. Mais ce que dit cette vieille femme, ça, c'est un cri plutôt. Parce qu'elle s'occupe, elle est très attachée à ce garçon qui revient dans son pays. Elle veut qu'il quitte le pays et en même temps, je crois, elle veut dire qu'il reste quand même, on ne sait jamais, avec une pièce de théâtre. Tout est contradictoire et en même temps, il faut que ça soit le souffle de la vie.
Et vous, Peter Handke, dans l'Autriche? Vous aimez la géographie contre l'histoire?
Écoutez, j'ai écrit cette pièce quand j'ai vécu à Salzbourg en Autriche et je suis rentré après une absence de peut-être 20 ans. Je suis retourné en Autriche et Salzbourg, c'est une ville pas vraiment typiquement autrichienne. Ça faisait partie d'un épiscopat pendant longtemps, en 19e siècle. C'est pas vraiment une ville autrichienne, mais il y a aucune ville autrichienne sauf peut-être Vienne, non? Même Klagenfurt, là où j'étais à l'école, la capitale de la Carinthie, c'est une ville qui était au 19e siècle à 60% slovène. Alors c'est très ambigu tout. Alors, moi, j'étais à l'époque très ambigu quand j'ai écrit la pièce. Mais je voulais quand même conquérir mon pays. Je voulais pas l'abandonner et je voulais pas m'abandonner moi-même. Alors, pour ça, j'ai écrit la pièce. Pour les deux. Pour retrouver la patrie et pour pester aussi. Je suis pas un type comme Thomas Bernhard. Moi, je me sens toujours coupable quand je peste. Et en même temps, j'ai envie d'aimer. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit pas seulement mes pièces de théâtre, mais aussi, surtout les pièces de théâtre. Surtout cette pièce-là. Aussi la dernière pièce qui s'appelle Immer Sturm, toujours la tempête. C'est entre les deux, entre un dégoût, entre la colère et entre la volonté de réconciliation. Et je peux dire que je ne me suis pas réconcilié avec l'Autriche, mais en ce moment, quand est-ce que j'ai écrit la pièce? Il y a plus que 30 ans, non?
Oui.
Il s'est passé quand même quelque chose entre mon pays. Maintenant, j'appelle l'Autriche. Quand quelqu'un insulte l'Autriche, il a souvent raison, et je suis toujours prêt à défendre mon pays. Je dis, c'est ma patrie. Mais seulement quand quelqu'un est contre, je deviens patriote. C'est bizarre, je ne suis pas nationaliste du tout. Mais jamais j'aurais l'idée de faire l'éloge de l'Autriche. Mais si quelqu'un dans les journaux, c'est un journalisme assez facile, peste contre l'Autriche, je me révolte. Parce que ce n'est pas du tout vrai tout ça. Parce qu'il y a des gens magnifiques, il y a une grande tradition du socialisme. Je parle pas, mais pas seulement ça. C'est que le catholicisme a fait ça. C'est pas seulement mauvais. C'est un pays profond. Et j'aimerais bien que la France apprenne un peu aussi, parce qu'il y a toujours une animosité entre la France, ce que Fernand Braudel appelle la longue durée. Entre les deux, l'Autriche était un empire, et entre l'Autriche et la France, il y avait une. Et ça existe toujours. La longue durée existe toujours. Et moi, je suis absolument contre.
Et pour l'Allemagne, Peter Handke, vous avez aussi cette oscillation entre...
L'Allemagne, ça m'intéresse moins. Je ne suis pas compétent. Ouais. Mais mon père, il faut quand même... J'ai fait une esquive là. Mon père était soldat allemand. Oui, mais j'aime bien... Je ne sais pas. La langue allemande, c'est magnifique comme langue. C'est tellement compliqué. C'est tellement... musical, c'est tellement... Je me demande comment... Même Goethe, il a essayé lui-même traduire quelque chose de ses essais sur la morphologie des plantes en français. Il a arrêté parce qu'il se disait les Français vont me prendre pour un mystique. Mais en allemand, c'est pas du tout mystique. Et moi, c'est pas du tout... Mais l'allemand, comme langage, c'est menacé par le mysticisme. Mais il faut trouver vraiment le chemin entre le Skylla et Charybde dans la langue allemande.
C'est menacé par le mysticisme dans la sonorité?
Oui, dans la complexité, parce que chaque intonation, chaque, si vous changez l'endroit d'un mot dans une phrase, ça peut devenir, ça fait une nuance complètement, essentiellement différente. C'est bizarre. Je ne suis pas un expert des langues, mais je connais un peu... comme pratiquant la langue allemande, mais c'est vraiment très, très dangereux. Très dangereux comme... Elle est dangereuse comme langue pour pratiquer. Ou on imite l'américain là, il n'y a plus de problème.
Parce qu'il n'y a pas de complexité grammaticale.
Oui, on va directement vers un but qui n'existe peut-être pas.
Mais vous l'aimez aussi, la langue américaine, lorsque vous lisez Faulkner? Et quand vous lisez Faulkner, vous aimez beaucoup Faulkner,
mais
vous le lisez en
Faulkner,
allemand ou en anglais?
Faulkner, il a maltraité l'anglais, heureusement.
Il l'a rendu compliqué.
Oui, heureusement, parce qu'il avait une grande nature. Et les grandes natures maltraitent toujours les langues.
Il l'a travaillé pour la rendre...
Oui, il n'a pas travaillé, je crois. C'était son univers, alors il devait suivre son univers. Alors il a maltraité l'américain ou l'anglais, ou le Mississippi Delta.
Le Yokno. Oui. Vous avez fait des études de droit, Peter Handke.
Oui, oui.
Vous vouliez être avocat ou être juge, vous pensiez?
Ah non, non, pas juge. Ah. Monde, que Dieu me protège. Les juges sont c'est quand même une absurdité de la nature. Mais il faut quand même des juges, pardon.
Il faut des tribunaux, mais...
Oui, oui. Mais je voulais défendre des criminels. Je voulais rien. Je voulais écrire, c'est tout.
Heureusement, vous faisiez des études.
J'ai suivi mon pseudo-destin.
Vous avez fait combien?
Je crois que je serais mort comme avocat parce que je serais tellement en colère. Je ne peux pas me maîtriser. Mais comme je suis écrivain, je peux me maîtriser avec les phrases. Mais comme faire un plaidoyer, je ne pourrais pas, je crois. Il faut vraiment se organiser, maîtriser, plaire aussi, toucher au bon moment, avoir une rhétorique. Et je peux être rhétorique, mais seulement un moment.
Ensuite, il y a la littérature
colère. Oui, la littérature, ce n'est pas contre la rhétorique, mais un avocat, le poids, c'est quand même sur la rhétorique. Mais dans la littérature, le poids, ce n'est pas... Ça fait partie de la rhétorique dans la littérature, mais les poids, c'est ailleurs. C'est dans l'image, dans les sentiments, dans le rythme, dans l'hésitation, dans les pauses, je ne sais pas.
Mais la langue juridique, elle vous a appris un rythme.
Ça m'a aidé, oui. Ça m'a aidé de sortir de moi, oui. De trouver une abstraction. Pas devenir abstrait, mais de trouver ça existe jamais, un équilibre entre la concrétisation et l'abstraction. Parce que des phrases trop concrètes, ça ne laisse pas libre les lecteurs. Il faut quand même... L'abstraction donne... Parce qu'on voit un peu le chemin entre le début, la sensation de l'auteur et l'abstraction. Et ça met en chemin les lecteurs aussi. Ou si on peut parler de théâtre, des spectateurs.
Pourtant, la langue juridique, c'est une langue très précise, qui classe, qui ordonne.
Précise, c'est un mot assez mou, comme la précision, c'est une chose assez relative, non? La précision de la littérature, ça peut faire des déviations immenses, comme ça, ça devient précis. Et la langue juridique, il faut quand même que ça trouve une ligne entre A et B. Qui ne fait pas de méandres. Mais la littérature peut faire des méandres. Ce n'est pas une idéologie, mais les méandres font partie, les méandres comme un fleuve, les méandres font partie d'un récit, aussi d'une pièce de théâtre, je crois. En tout cas pour moi, je ne suis pas un type comme Ibsen qui va toujours, on voit très bien ce qu'il veut. Pour ça, je pense souvent qu'il est le père de films de télévision, Ibsen. Ouais. Il est absolument laid, il est le créateur. Sauf Peer Gynt, c'est une pièce magnifique sur la Norvège. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de mystère. Il a un but, il sait ce qu'il veut montrer. Il est démonstratif. C'est lui, plutôt, il est un avocat, un bon avocat. Très bon avocat dans ses pièces.
Il y a trop de cohérence.
Oui, oui. Mm. Bah Shakespeare n'est pas du tout comme ça. Tchekhov non plus. Comme Ibsen, il est très, soi-disant, moderne. Mais je n'aimerais pas être moderne de cette manière-là.
Lorsque vous arrêtez vos études de droit, vous y vivez où? Lorsque vous commencez à écrire,
J'étais à Graz, en Autriche. Mm. C'est la deuxième ville de l'Autriche. Peut-être 300 000 habitants. Et j'ai quitté mon premier livre,
Les Frelons,
a été accepté quand j'avais 23 ans. Alors j'ai aussitôt, j'ai failli devenir juriste et j'ai aussitôt arrêté. Et je suis allé avec ma qui est devenue ma première femme, qui était actrice. Sans elle, j'aurais, parce que je n'aimais pas du tout aller au théâtre, mais j'étais forcé avec elle de voir des témoins en hôtel où elle a joué, ou je ne sais pas, Bertolt Brecht, le bon homme de Sichuan, comment il s'appelle, ça s'appelle la pièce de Brecht, le bon âme de Sichuan,
oui,
je crois, non?
Je crois que c'est ça.
Alors, comme ça, c'est ma première pièce. Et
vous êtes ennuyé?
Ben, ennuyé, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est quoi, là? C'est quoi le théâtre? Cette illusion-là qui ne marche plus du tout. Et là, comme ça, j'ai écrit l'outrage au public, là. Et ça m'a sauvé, soi-disant. Avec ma prose, les frélons, j'aurais jamais pu exister comme écrivain. Ça m'a aidé fonder une espèce d'existence ou pseudo-existence. Existence, c'est tout, toujours provisoire, tout. Je suis allé à Düsseldorf, en tout cas, où ma première femme était engagée au théâtre. Et j'ai vécu en Allemagne pendant 4-5 ans. Après, je suis arrivé à Paris pour la première fois.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Histoire d'enfant ».
Mais ça, c'était beaucoup plus tard, oui.
Et dans ce livre, on en parlera demain soir... Mais dans ce livre, vous parlez des nouvelles communautés des années 70.
Oui.
Et elles ne vous plaisent pas du tout. Vous dites que
ce sont de fausses communautés. Moi, je ne suis pas ce qu'on appelle 68-art. Je n'étais pas dit jamais.
Moi. Alors, quelle était votre vie à la fin des années 60?
À l'époque, on m'a considéré comme un type assez démodé parce que j'étais encore écrivain. En Allemagne, c'était même un poète qui n'est pas terrible comme poète, mais qui est un bon connaisseur de la poésie, comme Enzensberger, vous le connaissez peut-être aussi. Il a édité une espèce de revue, La littérature est morte. Et moi, j'étais la cible principale parce que j'étais encore en train de croire à la littérature. J'écris La langoisse du gardien de but, et je ne sais pas, après, c'était La côtelette pour un long adieu. J'étais, soi-disant, démodé, mais moi, j'étais très, très bien. Je me suis toujours senti bien quand j'étais mis en question. Ouais. Là, c'était mon endroit, toujours. Mais en même temps, je ne suis pas du tout masochiste. Et à l'époque, j'ai cru à la poésie. À la poésie, poésie, ça veut dire des petites choses qui disent l'univers. On ne sait pas. La poésie, ça n'a pas de loi. On peut pas dire comment faire la poésie. Ou une phrase ou un regard qui embrasse, qui émule, qui. J'étais pas toujours comme ça. Par moments, je pensais que le cinéma, par exemple. C'est pas une contradiction, c'est nettement plus contemporain, ou comment dire, que la littérature.
C'est ce que vous, à la fin des années 60, c'est ce que vous pensiez?
Oui, pas un moment, mais en même temps, ma patrie, c'était toujours l'imagination des phrases qui vont ensemble. C'était celle-là, je me suis dit, là, c'est mon vrai travail, c'est mon travail. Et quand je fais des scénarios pour Wim, mais moi-même, je fais un film de la femme gauchère, du récit. Je ne me suis pas senti bien à l'aise, pas à ma place. Après, j'ai presque perdu mon identité en m'occupant du cinéma. Mais maintenant, je suis la littérature, moi. Oui, je suis, c'est lui qui imagine des phrases qui ensemble qui donnent une odeur ou un rêve du monde.
Peter Handke, vous vous installez à Paris donc à la fin des années 70.
Attendez, oui.
Et puis ensuite vous allez
Oui.
Vous allez partir.
Moi j'ai écrit la chevauchée sur le lac de Constance.
Pourquoi
vous... Rue Chaptal, ouais, cité Chaptal, dans le 9e arrondissement à Paris. Oui, c'était un grand... C'était, tout était jeu à l'époque, c'était bien. On était... Moi, je dis souvent on. Mais je ne sais pas pourquoi. C'était un jeu d'écrire, mais un jeu dangereux. J'avais toujours peur de ce jeu-là. Et j'écris ça et je me suis dit... Chaque fois, je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois. Comme ma mère a dit, avant sa mort, elle a dit, j'ai dit, et j'ai terminé encore un récit, la courte lettre, sur un long adieu. Et là, elle m'a écrit, ah, tu es encore, tu es quand même encore, j'avais même pas 30 ans, j'avais 28 ans, tu as encore quand même réussi à faire un livre. Mais j'avais 28 ans. Et je pensais pas que j'allais réussir, continuer. Mais maman non plus. Mais j'ai quand même continué, parce qu'il n'avait pas d'autre lumière.
Peter Handke, pourquoi c'est en France que vous êtes bien pour vivre?
Parce que c'était Paris et c'était la liberté pour moi. Le gris de Paris, je ne sais pas. Quand j'avais 23 ans, quelqu'un m'a amené de l'Autriche à Paris. Et personne ne m'a regardé, il y avait tellement de gens et c'était magnifique. En Autriche, j'avais l'impression, peut-être c'est une maladie à moi, que tout le monde me regardait. Après, personne ne m'a regardé et j'étais absolument
en extase. Oui. C'était anonyme. L'anonymat qui vous mettait en extase.
Oui, oui. Et en plus, Paris, c'est presque partout Paris. Chaque arrondissement est le centre, mais... Je connais pas de ville au monde où on n'est pas tout dans le centre. Même maintenant, je trouve. Même, j'y vais pas souvent, je connais pas l'est de Paris. J'y vais presque pas, mais aujourd'hui, j'étais dans le 17e et c'est toujours où on est, c'est Paris. 13e aussi, même, où je vais souvent dans le 15e parce que c'est l'arrondissement, le plus près. J'aime bien la place Charles Michel. Alors on regarde les matchs de foot au bar avec des inconnus. C'est mon idéal. Oui, j'aime pas regarder chez moi les matchs de foot seul, hurler seul. c'est pas la solution.
Parce que le 15e, c'est le premier arrondissement de Paris qui est près de Chaville.
Oui, oui, c'est 12 minutes en RER et voilà.
Donc, c'est pas la beauté des arrondissements qui compte pour vous.
C'est pas la beauté. Moi, non, mais ici, sur les banlieues, ici même où j'habite, pour appeler ça Chaville ou la baie des personnes, je trouve pas que c'est la banlieue. C'est entre les deux. C'est ni la banlieue de Versailles, la prochaine ville, c'est Viroflay. C'est plutôt la banlieue de Versailles. Mais Chaville, c'est derrière la montagne, soi-disant, qui ferme Meudon et s'est dirigé vers Paris, l'observatoire de Meudon. On voit Paris en bas. Mais ici, là, on est vraiment entre les deux. C'est un endroit qui je ne sais pas, je n'ai pas choisi pour ça. J'ai choisi pour la forêt, pour les étangs et pour la maison ici, pour les jardins. Mais je réalise qu'on ne peut pas appeler ça banlieue. Mais je suis quand même attaché. Vous avez dit que j'ai changé souvent des endroits, mais depuis 23 ans, j'habite ici. Jamais dans ma vie, j'ai vécu un endroit si longtemps.
Peter Handke, est-ce que dans votre caractère, il y a quelque chose qui est devenu français? Qu'est-ce que vous pensez avoir avec les années passées
en
France?
Pas du tout. Non. Bah, je suis universel.
Il n'y a pas un caractère français, un caractère autrichien.
Mais quelqu'un pèse contre les Français, je les défends. Alors je suis pas devenu patriote français, mais je paye mes impôts ici. Comment dire? Et je suis pour l'équipe de football, pour le français, partout dans le sport. Mais c'est pas, je ne sais pas.
Il n'y a pas une âme autrichienne, une âme française.
Vous croyez? Je ne crois pas, non. Plutôt slave, toujours de ma mère, slovène. une espèce de... que je suis ému très vite, je ne sais pas. Que j'ai un rythme assez... dans moi qui est assez... qui vient de rêves non, qui ne sont pas réalisables. Quand je viens de relire Dostoïevski, les frères Karamazov, je me reconnais quand même dans ces trois frères. Cette colère et en même temps une espèce de folie, et en même temps une douceur et en même temps un ennui. Il n'y a pas, on ne trouve pas ces frontières. On n'est pas vraiment contouré comme un Français. Je ne suis pas défini. Peut-être c'est comme ça. J'ai jamais pensé comme ça, mais en parlant, je réalise, je suis pas du tout défini. Même pas comme slave. Je ne sais pas. Je suis un bâtard, soi-disant. Et je l'assume. Mais c'est pas une idéologie en même temps. Bah, il faut que vous compreniez.
C'est comme ça.
Oui, c'est comme ça. Mais c'est ma force, c'est aussi ma un manque aussi de que j'ai pas vraiment de sol sous de mes pieds, sauf quand je marche, oui.
Pas de terre ferme, oui.
C'est vrai, oui. Rien n'est défini, rien n'est acquis en plus. Vous ne connaissez pas?
Non.
Gambard, c'est Don John Ford. Yeah. Henry Fonda joue ça. Young Mr. Lincoln. Et Jewish Harp. En Autriche, il y a beaucoup, il y a une industrie dans une petite ville. Dans le livre L'épopée, ça, disons, La Nuit Morave, il y a un chapitre où il y a un congrès des gambardistes. Je raconte, mais c'est absolument inventé. Mais. Où il y a une espèce de concours dans une auberge abandonnée en Autriche. Et tout le monde, des gambardistes arrivent.
Mais vous avez déjà vu ça ou pas?
Non, je n'ai jamais vu ça. Mais ça existe, ils se retrouvent chaque année. Là, j'ai reçu des nouvelles des gambardistes du monde entier. Je crois que c'est mensuel, non. Bimensuel, je crois, ou même...
Bimensuel, ça fait tous les 15 jours?
Non.
Biannuel.
Je reçois, là, je vois où ils se retrouvent, en Hongrie, parfois, dans la steppe, quelque part, en Iran, partout. Afrique du Sud, oui. En marchant, ça fait du bien, si on marche. Si on est fatigué, ça crée un deuxième souffle parfois. Il y a une chanson de Michel Polnareff qu'on peut... Peut-être ça... Non, ça va. L'autre, c'est mieux. Non, bon, ça suffit. Mais...
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Virginie Bloch-Léné rencontre Peter Handke. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Laurence Millet, coordination Sandrine Trainer.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 juillet 2013. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.